France Culture.
Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Lucile Comeau, critique et productrice du Regard Culturel, tous les matins à 8h55 sur France Culture.
Bonjour.
Adrien Desnouettes, critique et enseignant.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors, Astérix sur Netflix, il y a quelque chose de logique. Dans cette série d'animation, Alain Chabat a travaillé avec le studio toulousain TAT et convié tous ses copains pour les voix, pêle-mêle. On peut citer Gilles Lelouch en Obélix, Laurent Lafitte en César, Géraldine Nakache en Bonne Mine, Jean-Pascal Zadi en Potus, Thierry Lhermitte en Panoramix, et la liste est encore très longue. C'est un album de 1966 qu'il a choisi d'adapter. Le combat des chefs, qui voit le druide Panoramix perdre la mémoire et oublier la composition de sa potion magique. Voilà donc nos Gaulois à la merci des Romains. On commence avec un avis rapide, Lucile Comeau.
Ben c'est un objet qui, bon, je me permettais l'expression, qui bouffe un peu à tous les râteliers, à la fois d'Astérix comme un réservoir et puis des possibilités qu'on a aujourd'hui dans l'animation et de Netflix, hein, pour le dire simplement. Mais c'est un objet assez généreux et qui trouve quand même sa spécificité parmi tout ça et je trouve que c'est très réussi.
Adrien Desnouettes.
Alors moi j'en suis sorti mitigé parce que je l'ai consommé très très vite, mais sitôt avalé, sitôt oublié.
Ah, sitôt oublié. Alors, on va écouter la bande-annonce d'Astérix et Obélix, Le combat des chefs, et on continue à développer juste après.
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains.
Toute ? Ben non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.
Non, mais Metadata, ça va pas, non? On va pas dire ça à César. Tu veux qu'il nous jette au lion ou quoi? Ave César, pour ton triomphe, nous avons pensé à une mosaïque.
Je vous ai demandé une idée forte pour célébrer mon triomphe et vous revenez avec une mosaïque.
C'est quoi cette idée en argile?
Oh César, tu as sûrement déjà entendu parler du combat des chefs.
Du?
Si un chef gaulois veut prendre le contrôle d'un autre village, il défie l'autre chef en combat, d'homme à homme. Le chef qui remporte le combat devient le chef des deux tribus. Donc, si un chef gallo-romain, un chef gaulois dévoué à la cause de Rome, bat le chef des irréductibles gaulois, il devient chef des deux tribus.
Et les gaulois deviennent romains ?
Gallo-romains. Mais oui, on peut dire romains.
Merci.
On était en train de parler des...
On décrypte les jeux de mots.
Oui, les jeux de mots d'Astérix et Obélix. Donc, c'est sur Netflix, c'est Alain Chabat. Lucile Comeau, ça pourrait être fourre-tout ce que vous décriviez, en disant, voilà, ça bouffe à tous les râteliers, mais ça trouve son chemin.
Oui, alors en fait, ça n'allait pas tant que ça, fourre-tout, parce qu'il y a une grande cohérence qui est donc l'ossature narrative du Combat des Chefs, qui est un album, un des premiers albums, hein, je crois que c'est le 6 ou le 7e d'Astérix, donc par Goscinny et Uderzo, qui est cette histoire peut-être parmi les plus drôles de Astérix et Obélix, puisque en effet il s'agit d'organiser un combat, donc le tout orchestré par l'autorité romaine évidemment, entre deux chefs gaulois. Le vaincu passe nécessairement sous l'autorité du vainqueur, or on fait combattre à bras raccourcis contre le plus gallo-romain de tous les Gaulois, donc voilà, qui s'appelle Appius Megalix et qui a un village qui l'a quasiment transformé en mini Rome. Donc ça c'est la base, et il se trouve que manque de peau, la potion magique n'existe plus puisqu'Obélix a balancé un menhir sur le coin de la tête de Panoramix. Et le fait que Panoramix soit neutralisé et devienne un personnage franchement comique, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps, parce que c'est quand même le grand sage d'Astérix et Obélix. Évidemment, c'est une espèce de réservoir à gags et à blagues. Ça fonctionne extrêmement bien. Après, en fait, il a aussi, Chabat, dans sa grande intelligence, enfin Chabat et son équipe, pioché dans tout un tas d'autres albums. Donc, il y a à la fois des allusions et des vrais recours narratifs, notamment à quelque chose qui n'est pas un album en soi d'Astérix et Obélix, qui est une espèce d'histoire illustrée qui a été publiée aussi très tôt dans Astérix et Obélix, qui s'appelle Comment, je crois, Obélix est tombé dans la potion magique, qui a été publiée, je pense, c'est même avant le combat des chefs. Moi, j'ignorais totalement l'existence de ça, parce que je pensais que comment Obélix était tombé dans la potion magique,
on
ça restait de l'ordre
dire.
Du mythe, et ouais. On ne le savait absolument pas. Or, il se trouve, bon, je ne spoil pas, parce que c'est dès le premier épisode, que Chabat se permette un flashback avec Astérix et Obélix petit. Donc évidemment, on voit le truc venir gros comme une maison, on va savoir. Et ça a existé avant. C'est-à-dire qu'il s'inspire vraiment de la vulgate Uderzo Goscinny. Et en fait, je pense que ce cette espèce de il met le pied là où, bon, d'habitude on va pas trop, lui permet d'ouvrir des portes très intéressantes à l'intérieur d'Astérix et Obélix, qui est cette espèce de scène primitive devient vraiment un trauma à exploiter, et ce trauma psychologise les personnages, et les personnages dans la série acquièrent grâce à ça une dimension qu'on connaît assez peu. Chabat, bon, on le connaît parce qu'il a fait un film qui est probablement la grande adaptation d'Astérix et Obélix, qui était Astérix et Cléopâtre, qui est la grande comédie des années 2000. Je pense que tout le monde connaît les blagues par cœur et ça marche toujours auprès de la génération qui vient. Donc c'est quand même une grande réussite d'un point de vue de la comédie. Et là, je pense que sa grande intelligence, c'est d'avoir décalé son adaptation à la fois du côté de la série, donc du coup, bon, voilà, on n'est pas au cinéma, et aussi de l'animation. Et donc ça décale les enjeux narratifs et humoristiques un petit peu. Après, on reconnaît évidemment l'esprit Chabat à peu près partout.
À quoi, par exemple ?
Alors, c'est à la fois du gag. Il y en a peut-être moins que dans Astérix et Obélix et Cléopâtre. Ouais. C'est les jeux de mots, c'est dans Astérix et Obélix de toute façon, mais là il les prend vraiment, il en fait quelque chose de particulier. Donc il y a toujours ce jeu sur les noms. Moi j'en ai relevé des géniaux. Il y a notamment une liste à un moment donné. César appelle trois types qui s'appellent Azanivicius, Momomotus et Beetlejuice. Bon, moi, ça me fait mourir de rire ça. Voilà, donc il y a les jeux de mots
et puis
il y a la référence. Voilà, Omar et Fraise, la référence. En fait, dans le jeu de mots, la référence à la culture populaire qui marche. Bon là. Plus auprès des adultes que des enfants, mais qui marche toujours aussi bien. Enfin, Chabat, il sait vraiment faire ça. Et il y a un truc pas agaçant. C'est pas une sorte d'entre-soi un peu morbide. Au contraire, c'est toujours très ouvert. Moi, je trouve l'humour de Chabat vers un public très large, en fait. Mmh. Et là, avec l'animation, en plus, il récupère vraiment les plus petits. Et ça fonctionne.
Adrien Desnouettes.
Oui, bah alors, je suis absolument d'accord avec je me reconnais totalement dans le ressenti de Lucille, mais je vais un peu prendre le parti qui est aussi le mien, qui est celui des déçus du grand Chabat. Parce que la série est assez à l'image de ce qu'est devenu Chabat, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois très fidèle à ce qu'on aime de Chabat, c'est-à-dire une espèce d'insolence sympathique, mais qui est devenue de moins en moins insolente et de moins en moins insolente et de plus en plus sympathique. Ça peut paraître un peu bizarre d'accoler le terme d'insolence à Chabat, mais pour moi, c'était vraiment ça qui faisait, sa singularité, et même, j'ai envie de dire, le fait qu'il soit probablement un des humoristes qui est le plus duré depuis les années 90. Cette insolence, elle passait par quelque chose qui aurait pu nous mettre tous à la porte, à savoir une espèce d'humour d'entre-soi, qui brillait dans Mission Cléopâtre, et qui, en fait, nous avait tous fédérés. C'est-à-dire que, alors que c'était l'humour des nuls, qui était en fait plutôt un humour assez clivant, il fallait connaître les références, c'était plutôt adulte, ça se faisait toujours au nez à la barbe du récit, de l'histoire, donc des enfants, et ben en fait, il arrivait à faire ce tour de magie, ce truc miraculeux, où en fait, la révolte du second plan des gags prenait complètement le dessus sur Astérix et Obélix dans Mission Cléopâtre, et en fait, on s'était tous retrouvés, on s'était tous, d'une manière ou d'une autre, on avait tous trouvé à manger, un peu comme disait Lucille tout à l'heure, il y avait à boire et à manger, mais il y en avait pour tout le monde, en fait. Alors oui, il y avait eu des fâcheux qui s'étaient quand même retrouvés à dire, ça n'est pas dans l'esprit vraiment de Uderzo et de Goscinny, ce qui était faux. En fait, Alain Chabat, l'humour d'Alain Chabat était déjà très Goscinny, donc ça marchait très bien. Et là, quand même, je suis obligé de le dire, c'est une bonne série. Vraiment, je ne la déconseillerais à personne. Néanmoins, les amoureux du Chabat, disons, jusqu'à Mission Cléopâtre, hein, d'ailleurs, ne s'y retrouveront pas. Parce qu'en fait, la grande équation de Chabat, c'est quel équilibre trouver entre le premier degré de l'histoire et le second degré des gags, donc du cartoon. Et pour moi, c'est là que la révolte de Chabat, elle est quand même très insolente. C'est qu'en fait, Chabat, au fond, il a réussi à faire en France un truc que personne n'a jamais su faire. C'est vraiment du cartoon. C'est-à-dire le moment où le film ne s'intéresse plus à Blanche-Neige, mais aux sept nains. Plus à l'intrigue principale, mais en fait, c'est les personnages secondaires qui viennent prendre le dessus. C'est toujours ce qui se passe dans le cartoon. Et il y a plein de très grandes références qu'on connaît tous. Gremlins 2, où en fait, Gizmo, au début auquel on s'intéresse, devient très très vite relégué derrière les Gremlins, qui sont les vrais héros de l'histoire. Et en fait, c'était ce qui s'était passé dans Mission Cléopâtre. Et ça continue de crépiter un peu dans cette série-là. Exactement avec les jeux de mots qu'a très très bien citer Lucille, j'ai aussi envie de citer mais c'est aussi, ça en dit très long sur qui je suis, hein, parce que c'est très agressif ce que je vais dire, mais moi le moment qui m'a le plus fait rire, c'est quand il y a un délire de Panoramix qui est donc complètement assommé, et l'épisode s'ouvre sur une espèce de animation primitive qui s'appelle Le Monde de Panono, ou vraiment quelque chose de très régressif pour les enfants, et en fait c'est que des... Là c'est du Chabat, c'est-à-dire que c'est du Teletubbies, et ça vient comme ça, ça surgit de nulle part, on sait pas trop ce qui se passe.
Et c'est très... inquiétant d'ailleurs.
C'est inquiétant, c'est flippant, et en même temps c'est drôle, il y a une petite comptine, on est bien dans Le Monde de Panono, et là oui, là on se dit ok, Alain Chabat est encore là, ça respire encore, ça bouge encore, et j'aurais presque voulu qu'il fasse tout un épisode dans Le Monde de Panono. Chabat, le grand Chabat des animations Cléopâtre l'aurait fait en fait.
Ouais.
Et Chabat, c'est devenu quelqu'un qui fait des films de Noël en fait maintenant, c'est quelqu'un qui fait Pour moi, c'est quelqu'un qui a trop pactisé avec les conventions du grand spectacle. Et donc, Lucille mentionnait tout à l'heure Netflix. Mais c'est ça, il y a quand même... faut en rentrer un tout petit peu dans le cahier des charges. Et moi, je trouve que ça fait 15 ans que Chabat fait ce que d'autres pourraient faire à sa place. Donc, je suis quand même un peu déçu, sans dire que c'est pas bien.
Les amoureux alors donc de Chabat, selon Adrien Desnouettes, ne s'y retrouveront pas. Mais les amoureux du Derzo et Goscinny s'y retrouvent, par contre.
Mais je suis pas certaine et je suis pas d'accord justement avec Adrien de ce point de vue. Mais c'est intéressant que vous me posiez la question, parce que c'est vraiment là que ça se situe, à mon avis, l'intérêt de la série. C'est que je pense qu'en effet... peut-être que c'est pas du Chabat dans ses meilleures heures, à ses meilleures heures, mais c'est pas non plus forcément du Netflix qui aurait adapté Astérix et Obélix, parce que précisément, et je reviens donc à ma dimension psychologique, parce que en fait, au départ, je me suis dit mais pourquoi il nous fait ça ? Enfin vraiment, à quoi ça sert que d'un coup on éprouve vraiment de la pitié, par exemple, ou de la colère en regardant Astérix et Obélix, ce qui sont quand même des sentiments ou des sensations qu'on éprouve assez peu à la lecture des albums. Astérix et Obélix, c'est des personnages de papier, un peu dans tous les sens du terme, qui n'ont pas d'épaisseur, il n'y a pas d'enjeu de cruauté, par exemple. Là, il y en a. Il y en a, du moins, dans cette espèce de premier niveau de réception d'Astérix et Obélix dont vous parliez, qui est juste l'histoire, la narration. Il y en a parce que, en fait, César est vraiment méchant. Il y a une mise en spectacle de l'humiliation des Gaulois qui est vraiment violente. Il y a un personnage, donc, qui est doublé par Anaïs de Moustier, qui est une jeune fille romaine qui tente, elle, qui se met de plus en plus du côté des Gaulois pour finalement les aider, qui a vraiment de l'empathie, donc qui est nécessairement un relais du spectateur contemporain, et qui vraiment nous met du côté d'Astérix et Obélix. Astérix et Obélix s'engueulent vraiment et c'est vraiment très grave. Et cette gravité-là, je trouve que c'est une forme de comment dire, c'est pas simple à mettre en scène sur Astérix et Obélix et en animation, et il s'en sort très bien, et c'est un défi, et il s'en sort. Et je suis pas sûre que ce soit de l'ordre du cahier des charges Netflix, ça. Ça a l'air de l'être, là, raconté comme ça, mais je pense que c'est Alain Chabat qui est encore plus malin, et qui s'en sort très bien en creusant une dimension qui n'existe pas, ni dans la BD, ni dans une série attendue sur Astérix et Obélix.
Qu'est-ce qu'on pense des voix? Parce que je les ai citées un peu rapidement, là, mais il y a un défilé de comédiens et de comédiennes qui sont tous dans la bande de Chabat. On dirait qu'on est sur le Burger Quiz, quoi, presque.
Ah bah il y en a qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Et on se dit vraiment, il y a des acteurs de gueule et il y a des acteurs de voix. Quoi. Ouais. Thierry Lhermitte, par exemple, c'est immédiat. Il y en a d'autres qu'on reconnaît beaucoup moins. Laurent Lafitte, moi, je n'ai pas du tout reconnu. Ça, c'est assez drôle.
Il y a un côté clairement... Moi, c'est tout ce que je déplore un peu de tout ce qui s'est passé autour de Chabat dernièrement. C'est le Chabaland, quoi. On est vraiment dans un parc d'attractions de Chabat où il y a les amis qui viennent à Burger Quiz. On sait à peu près qui on va retrouver. C'est hyper intéressant. Il y a, par exemple, il y en a qui tirent hyper bien leur épingle du jeu. Jean-Pascal Zadi en romain, Potus, je crois qu'il s'appelle.
Potus, ouais.
C'est hyper bien. Je veux dire, ça apporte. Il y a une vraie valeur ajoutée parfois. Pas toujours. Mais, pour en revenir juste un tout petit peu sur, quand même, je vais essayer de défendre un tout petit peu le grand Chabat. Alors je disais Netflix, mais en fait c'est le grand spectacle. L'histoire du cartoon, c'est toujours la lutte du second plan, du gag, des acteurs de second plan pour en fait réussir ce truc qui est hyper difficile à obtenir, qui est de dissoudre l'histoire et le récit, qui est en fait une espèce de tyrannie de producteur. Si il faut toujours un plan psychologique, le drame et le sérieux sont toujours la tyrannie contre lesquelles s'embête le cartoon. Et n'oublions pas que Chabat a été le seul à le faire avec un film à 15 millions. Et que si Chabat ne le fait plus, d'accord, c'est très bien, je veux dire, c'est super qu'il le fasse dans Astérix, et je suis d'accord que l'objet est vraiment, une fois encore, je l'ai avalé, je l'ai dévoré. Je dissuade personne d'aller voir ça. Mais si Chabat ne fait plus ce qu'il était le seul capable de faire,
oui, mais on est dans une économie où le grand spectacle dans la série ou au cinéma encore plus, où le blockbuster nous sert et nous resserre des objets autoréférencés, complètement troués par le gag en permanence et où on fait plus du tout confiance au récit, à la narration. Enfin, là vraiment, pour le coup, on se retrouve avec un truc assez naïf, mais au bon sens du terme. Il y a un truc premier degré qui met de l'air un peu, moi.
Oui, mais Astérix offrait autre chose.
Si vous voulez avoir le temps de parler d'Andorre, je vais vous couper la parole tout de suite. Astérix Obélix, le combat des chefs d'Alain Chabat, c'est sur Netflix.